France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Donc c'est au de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond en tout cas, qui essaye. Avec à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos et Vincent Godard, et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors, une petite humeur, une humeur de fond avec pour commencer les discussions marathon autour du paquet climat-énergie à Bruxelles. C'était jeudi et vendredi. Et vous le savez, le problème avec ce genre de compétition, c'est qu'à l'arrivée, il ne faut pas de perdants, non. Alors forcément, pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, on distribue des exemptions, des dérogations aux usines de ciment, à la chimie, à l'énergie, que sais-je. Et pour le reste, alors c'est bien d'accord, on se revoit thermomètre à la main à Copenhague et dans quelques années. Dans la catégorie recyclage, alors toutes nos félicitations à la société Eco-Emballage, organisme qui gère les contributions des entreprises pour les redistribuer aux collectivités locales qui effectuent la collecte et le recyclage, travail d'ailleurs dont elle s'acquitte fort bien. Bon, elle a simplement poussé le souci du travail bien fait jusqu'à placer 60 millions d'euros sur des fonds à risque un peu hasardeux dans une lessiveuse, on va dire, de type paradis fiscal. Et après tout, vous me direz, ça reste dans le cœur de métier, c'est toujours du tri et du recyclage. Dans la série Record d'endurance, alors là écoutez bien Alain, mention spéciale à Limosa Laponica. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la barge rousse, un oiseau qui fréquente les estuaires des hautes latitudes et qui se régale de mollusques piochés dans la vase avec son long bec fin. Parce que la barge rousse, voyez-vous, c'est un peu comme nous ces jours-ci, elle supporte mal les rigueurs de l'hiver. La neige, le verglas, les coupures d'électricité. Alors, en attendant le réchauffement du climat, elle n'hésite pas à changer d'hémisphère quand vient la mauvaise saison. Bon, jusque-là, vous me direz, rien d'extraordinaire, hein, ça s'appelle un oiseau migrateur, ça on connaît. Sauf que 11 500 km à travers l'océan Pacifique, sans escale et sans assistance, dans la catégorie endurance, ça vous pose quand même son volatile. Hein. D'ailleurs, les chercheurs américains qui suivent le voyage des barges rousses par satellite de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande depuis quelques années, se posent encore bien des questions à leur sujet. Avec ses 800 grammes au décollage, eh ben on le sait, Limosa Laponica embarque la moitié de son poids en graisse, c'est-à-dire en carburant. Vous ajoutez une bonne dose de sens de l'orientation, de solides battements d'ailes, le tout sans boire ni manger pendant le trajet, pour la bonne et simple raison que notre migrateur au long cours, eh bien, ne se nourrit pas de poissons. Et là, ça fait quand même pas mal de temps et ça joue vraiment les coureurs de fond. Et on me dit que les coureurs cyclistes du Tour de France étudient de près le régime alimentaire des barges rousses et se voient déjà pédaler 10 heures par jour à 50 km/h de moyenne dans les montées. D'autant plus que contrairement à l'EPO, eh bien, les mollusques ne sont pas encore sur la liste des produits interdits. Comme quoi, à part le téléphone portable et le fer à repasser, l'homme n'a peut-être pas inventé grand-chose que nos amis les bêtes ne connaissaient déjà. Tenez, je suis même prêt à parier qu'à l'arrivée de son marathon dans les airs, eh bien la barge rousse, si elle pouvait parler, nous dirait « Ce que j'ai fait, je te jure, aucun homme ne l'aurait fait !» Voilà pour se mettre en joie, cher Alain. Vous connaissez la barge rousse, oui, sûrement.
Oui. Sa cousine est depuis très peu de temps protégée. La barge à queue noire, espèce gibier, qui est désormais, avec le courlis cendré et les dérats duvet, protégée suite à nos tables rondes avec la chasse. Vous savez, la barge rousse, ça m'amène peut-être à la réflexion d'aujourd'hui sur la condition animale. Oui. Notamment pour le foie gras, on nous explique que finalement, on gave les oies comme les oiseaux migrateurs se gavent avant le départ. Oui. La grande différence, c'est d'abord on ne les entube pas, les migrateurs. Ils choisissent la dose de graisse qui leur est nécessaire. Et ils la reconduisent périodiquement, cette dose de graisse, de sorte que quand ils ont brûlé l'énergie pour voler, hein, pour avancer, eh bien ils vont se refaire un peu de graisse et ils vont recommencer pour aller dans les lieux d'hivernage. Mmh. On est donc dans une situation totalement différente de celle de l'oie qui, elle, va être gavée jusqu'à ne plus pouvoir bouger.
Ou du fameux canard mulard que connaît très très bien Marie Rouanet, parce que donc effectivement, Marie, donc vous avez écrit cet ouvrage « Mauvaise nouvelle de la chair », et alors vous avez fait, on va dire, un petit tour quand même des hangars, des lieux concentrationnaires où on élève effectivement toutes les bêtes, que ce soit donc les poulets, que ce soit les canards, les cochons, etc. Et effectivement, vous êtes revenu un petit peu effaré. Enfin, vous connaissiez quand même un peu la situation. Et effectivement, ce fameux canard mulard, enfin, vous en parlez bien, vous dites que c'est une poule au foie d'or et au magret d'argent. Et je tiens à préciser tout de suite que vous n'êtes pas du tout...
moi je suis formelle, je ne suis pas végétarienne.
Non, c'est ça.
Et même, à l'occasion, je donne la mort sans état d'âme. Puisque la bête, on est décidé à la manger, il faut bien que quelqu'un la tue. Et si moi je la tue, je pense que peut-être c'est mieux pour elle presque que d'être tuée en abattoir. Donc je mange de la viande, modérément d'ailleurs, mais j'en mange et avec beaucoup de plaisir. Et donc je m'affirme carnivore pour une part de mon alimentation.
Voilà. Et ce que vous avez voulu effectivement montrer, c'est le destin qui est tracé vraiment avant la conception pour les animaux qui font toute notre nourriture. Il n'y a pas de place à l'aléa, comme vous dites.
Il y a une programmation absolue du piégeage du sperme jusqu'à celui de l'ovule, en passant par les accélérateurs de maturité sexuelle. Et puis après, quand le jeune est né, on sait exactement combien de temps il va vivre. Si c'est une poule pondeuse, c'est tant de jours. Si c'est un poulet de chair, c'est aussi la durée. On sait combien il va manger. On sait à quel moment on l'abattra. Il y a un destin tout fait, qui est un peu effrayant quand on pense à cette sorte de mathématique implacable. C'est magnifique, si vous voulez. C'est des techniques qui sont parfaitement performantes. Mais qui sont carrément diaboliques.
Voilà. Et donc derrière tout ça, il y a bien sûr la condition animale. Il ne s'agit pas de faire, entre guillemets, de la sensiblerie à 3 francs, hein, donc, ou à 3 euros, pardon. Non, ce n'est pas ça non plus. Et j'ai presque envie de commencer aussi avec vous, Alain Beaugrain-Dubourg, parce que vous avez écrit « Sales bêtes, respectons-les ». Ça, c'est aux éditions Artaud, par cette petite lettre que j'ai écrite. « Mon cher Descartes, n'admettre en science que la raison, privilégier que le raisonnement déductif, rompre avec la scolastique, inventer la géométrie analytique, décrire la circulation du sang, eh bien nous ne te remercierons jamais assez. Mais assimiler les êtres vivants à des automates et faire des animaux machines, bah dont on voudra peut-être un peu, mon cher René, car plus de 3 siècles après tes visites dans les abattoirs où tu voyais des tuyaux ensanglantés, des mécaniques de chair, eh bien certains de nos contemporains ne sont toujours pas convaincus du contraire. Voilà. Et on est encore un peu là-dessus. Enfin, en même temps, ce type-là était génial, hein, bien sûr.
Oui, incontestablement. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, que l'animal-machine fait encore recette. Et Konrad Lorenz, le prix Nobel, le père de l'éthologie, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en Autriche, m'avait dit que les sociétés se sont construites sur la domestication, donc la domination de l'homme sur l'animal. Et si ces sociétés arrivaient à mesurer avec l'évolution de l'éthologie combien derrière l'animal il y a de possibilités d'humour, de compassion, d'émotions multiples, de sensibilité, peut-être que ça remettrait complètement en cause leur rapport à l'animal. Alors on préfère fermer un peu les yeux, ça nous arrange, et par conséquent on ferme le cœur de nos responsabilités. Et je dois dire que Boris Cyrulnik dit exactement la même chose. Alors il y a quelques esprits éclairés qui... Madame, vous dites que vous n'êtes pas végétarien, je ne le suis pas non plus, même si je limite plutôt la viande. En revanche, je crois que nos rapports au respect du vivant qui nous entoure sont indispensables aujourd'hui. Et je constate, il y a eu notamment, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais de la même façon qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu les rencontres animales et sociétés. J'ai envie de dire qu'à l'initiative, c'était en principe les Grenelles de la condition animale, portées par le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier. On a travaillé pendant 3 mois avec différents collèges, les professionnels, les éleveurs, les associations, les syndicats vétérinaires, la FNSEA, etc.
Alors, résultat des courses, qu'est-ce que ça
donne ? Une souris.
Oui.
On a accouché d'une souris.
Transgénique.
Et c'est pathétique. Je dois dire, avec toute l'amitié J'ai pour Michel Barnier que, contrairement à Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui ont porté avec courage le Grenelle de l'environnement, rappelez-vous les OGM, hein, ça n'a pas été simple, Michel Barnier était détaché du problème. Le résultat est ridicule. On a eu une réunion hier où on voit que les projets d'avenir doivent être exclusivement consensuels. En conséquence, il n'y a pas de responsabilité politique qui est prise. Or, on a vraiment aujourd'hui un devoir de bon comportement à l'égard de l'animal. Et juste un mot, ça n'est pas de faire de la sensiblerie que de parler de sensibilité à l'égard de nos voisins de planète, les animaux. Je commence à en avoir marre d'en prendre plein la gueule sous prétexte que simplement, je dis, ayons un peu de dignité, ayons un peu de respect, faisons reculer la souffrance animale chaque fois que possible. Et ça vaut pour la condition humaine, croyez-le bien. Et
effectivement, on fait partie quand même d'un grand ensemble du vivant. Je vous en prie, Marie.
Lorsque on parle avec des éleveurs, ils vous disent une chose qui m'effraie beaucoup, moi. Ils sont pas malheureux, ils ont pas connu autre chose. Je trouve ça particulièrement effrayant, même pour les humains. Hein. On nous l'a eu dit, d'ouvriers. On nous l'a eu dit, du monde ouvrier. Oh, c'était pas la peine de leur mettre des grandes baignoires. Ils étaient pas habitués. Ils étaient pas habitués à se laver. Ils étaient pas. Attention. Ils ont pas de goût, par exemple. Ils aiment pas les nourritures raffinées parce qu'ils sont pas habitués. Ils sont liés dans leurs conditions. Alors on entend dire ça chez les animaux et on refuse véritablement ce qu'on pourrait appeler des embryons de sentiments. Par exemple, moi je suis frappée des courtisements animaux. Les courtisements chez l'animal en remontrent aux humains. Ils sont parfois beaucoup plus raffinés que nous, même dans le courtisement de l'autre.
C'est un très joli mot, le courtisement. Faire la cour, c'est presque un mot de troubadour,
mais oui,
ça.
Mais oui, c'est un mot de troubadour, parce qu'il n'y a pas de coït animal sans courtisement. Certes, il nous échappe parfois. Il nous échappe que la truie, elle a entendu grogner dans son élevage, tout enfermée qu'elle est, sans avoir rien connu d'autre. Elle a entendu grogner un verra, et c'est lui qu'elle veut. C'est pas le verra qu'on va lui amener, parce que l'insémination n'a pas pris, mais c'est tel verra qu'elle a entendu, ces grognements étant des appels à l'amour, qui étant des paroles séduisantes.
Donc, alors, ce que je vous propose, c'est donc là, on va continuer évidemment ce chemin, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter hein, sur ce thème. Tout à l'heure aussi, il y aura donc un reportage. Je vous emmènerai sur le boulevard des ours aussi. D'ailleurs, Alain Bougrain-Dubourg en parle dans son ouvrage, donc Sale Bête, respectons-les, avec Santiago Mendieta. Mais tout de suite, on va partir en musique. Enfin, on va continuer d'ailleurs, en musique, c'est déjà parti avec Camille. Oui.
My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle. My home has no keys. If you're here to rob me, there's nothing to steal. Home is not a harbor. Home is where it hurts. My home is no heart. My home is no try to break in, it leaves with no stain. My brain has no corridors, my walls have no skin. You can lose your life here, 'cause there's no one there. Oh,
Bonjour les cocottes. Oh là, côté mignon, regarde. Bonjour mon coco. Ah, Coco la brioche, celui-là. C'est Coco la brioche, parce que tu lui donnes du pain de la main droite, il n'en veut pas. Tu lui donnes de la brioche de la main gauche, il la mange. Elles sont pas jolies. Petit, petit. J'ai 8 poules, un coq. Tous les jours, j'ai 6-7 œufs, et puis voilà. Mais le secret, c'est d'en donner du riz. Ça leur aide à faire la coquille, tu comprends? Mon coco? Oh, qu'il est beau, hein. Oh, il est brave, mais pas téméraire. Il a peur de toi, il ne va pas se lever. Allez, Seigneur, veux-tu te lever? Elles sont sauvages, c'est pas croyable. On dit que les animaux sont bêtes, tu vois. Ma cocotte. Oh, merde. Parce que là, je vais peut-être avoir raté mon œuf.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Voilà, je ne saluerai jamais assez cette tante Marie, donc ma tante qui n'avait que 85 ans, donc à l'époque dans son Morvan, donc natal, et qui aimait ça. Et puis moi j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a vraiment complètement initié à des tas de choses de la nature. Alors Marie Rouenet, évidemment, on est très très loin de ce que vous décrivez dans votre ouvrage, et aussi d'ailleurs Alain Bougrain-Dubourg. C'est vrai que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a été donc la course à la productivité de protéines animales, donc à bas prix. Il fallait évidemment nourrir la France, on comprend très bien tout ça. Et donc on a un peu quand même forcé la dose et développé des élevages contre nature. C'est dément, je veux dire que dans votre livre, vous avez pu, vous, effectivement, vous rendre dans des hangars, dans des univers concentrationnaires donc pour animaux. C'est quoi le destin, effectivement, de ces bestioles? Il n'y en a pas de destin dans ces bêtes-là.
C'est-à-dire qu'on a envie de produire beaucoup. Pour la bonne raison, c'est que les marges sont minuscules entre céréales netto, entre les producteurs de semences, les producteurs qui achètent. C'est l'agriculteur qui a le moins, en général.
Bien sûr.
Donc, comment on fait pour gagner sa vie? On multiplie le nombre des bêtes. Il est évident que ce que nous venons d'entendre, on ne peut pas le faire avec un hangar où il y a 3000 poulets. C'est pas possible. Mais c'est vrai que quand on pense à la poule en particulier, dont les instincts ancestraux sont très forts, c'est un gratteur, la poule. C'est un animal magnifiquement social. Il n'y a rien à faire quand on a, comme cette dame, 8 poules et un coq qui s'occupent d'elle. C'est parfait. Elle gratte, elle picore, elle batte des ailes sans voler. Elles se font des nids dans la poussière. Voilà, vous voulez, des instincts qui sont totalement niés par la vie. Elles ont les pattes crispées sur un grillage à travers lesquels passent leurs fientes, qui de plus est... et tampante pour permettre aux œufs d'aller se faire emboîter à la salle d'emboîtage. Mmh. C'est-à-dire que cette bête ne sait pas plus du tout ce que c'est que gratter la terre. Elle était béquée pour pas blesser ses camarades, parce qu'encore, comme chez les bêtes enfermées en nombre, elles développent des instincts qui sont des instincts cannibales. Elles sont violentes les unes avec les autres. Donc elle était béquée. Elle ne peut pas étendre les ailes ni battre des ailes. Elle ne peut pas couver. Elle a l'instinct. Et ce qui est extraordinairement fort, c'est que si on prend ces poules, au moment, au lieu de les envoyer à l'abattoir, parce qu'au bout de 18 mois, elles sont épuisées, ces bêtes, hein, si on les prend et qu'on les remet dans des conditions normales, au bout de quelques jours, elles grattent, elles picorent.
Ah, c'est incroyable, ça.
Elles font leur petit nid de poussière, hein, elles battent des ailes, elles retrouvent les instincts ancestraux. Donc, ils sont très forts. Beaucoup plus fort que chez les humains. Pratiquement, nous n'en avons pas, nous, d'instincts ancestraux. Il paraît qu'on n'a qu'un instinct, c'est tété. C'est le seul qui nous reste. Elles le retrouvent. Mais évidemment, à part une petite poignée sauvée par quelques philanthropes, aucune n'arrive à retrouver quelque intérêt à la vie. Moi, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est très juste. On ne peut pas accepter de dominer la bête au point de l'aliéner complètement dans ce qu'elle a de plus légitime. Si on doit la tuer, qu'elle ait une vie digne d'elle, digne de nous, parce que je ne pense pas qu'on ait intérêt à faire des choses immorales. Moi, je parle d'éthique. Il y a une chair qui est immorale. Celle-là, elle me dégoûte. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'en manger. Je préfère m'en passer. Et presque dans tous les élevages et dans tous les élevages intensifs, on va trouver ce rapport épouvantable, avec le bridage des instincts. Pour ça, pourquoi tout ça? Non pas pour nourrir l'humanité, mais pour faire le maximum de tête, le maximum de viande, et le maximum de profit, il faut bien le dire.
Il y a même une chose que j'ai découvert dans votre livre, c'est la manière dont on a la mise à mort, et il faut dire les mots, hein. On n'euthanasie pas les animaux, non c'est ça, on les tue. Bon, décharge électrique, mais la dose réglementaire de décharge électrique brisait très souvent les os, et ça fait pas du tout l'affaire de l'industrie alimentaire, ce qui fait qu'on a diminué la dose de la décharge, et après, ça veut dire que de nombreux bêtes peuvent être alors égorgées, plongées dans le bain d'eau bouillante, encore conscientes.
Voilà, alors on va vous dire...
Mais on dit pas que c'est la majorité partout.
Qu'est-ce que vous
c'est...
allez chercher avec la conscience des poules? Exactement, parce qu'on préfère nier la conscience, nier la sensibilité, nier une sorte de droit à un plaisir de vivre. On préfère le nier que d'en prendre conscience. Sinon, il y a des choses qu'on ne pourrait plus tolérer. Voilà, alors on a des bêtes qui conscientes. Et on sait à quel point elles sont stressées. Plus elles sont intelligentes, les bêtes, à notre manière même, hein. C'est le cas du cochon, plus il est stressé par l'approche de la mort. Les porcs sont très intelligents. Il n'y a qu'à voir les truies avec les choix qu'elles font. Il n'y a qu'à voir toutes ces femelles qui refusent le spéculum et la paillette de sperme. La petite dose, il y en a plein. Et quand on leur met le mal, ça marche. Elles sont contentes.
Et oui,
il n'y en a pas beaucoup qui échappent, à la...
Non, mais sinon, dans votre bouquin, il y a de l'insémination partout. Sinon.
Ah, mais ça, il y en a partout. C'est fini, oui, ça. Oui. Vous savez, ça nous pend au nez, hein.
Oui, ah bah c'est voilà, c'est bon. Ça, on va faire ça comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors, cher Alain, si on repart effectivement quand même aussi sur le fameux code civil, hein, 1804, droit de l'animal, et c'est quoi? C'est considéré comment un animal?
Alors, vous avez dans le code civil, le code fondamental français, le code Napoléon, deux choses. Vous avez l'homme et vous avez les biens. Probablement que Napoléon avait autre chose à faire à l'époque que de s'intéresser à l'animal, donc ça a été fait un peu rapidement. Et donc l'animal est intégré sous le chapitre des biens, soit au titre de meubles, soit au titre d'immeubles. Et l'une des choses que j'ai souhaité avec d'autres, pour les rencontres animal et société, qui me paraissait mais vraiment élémentaire, c'est qu'on puisse intégrer le mot animal dans notre code fondamental. Ça me paraissait peu de choses, ça me paraissait élémentaire en ce début de 21e siècle, et ça ne changeait rien à l'affaire, puisque par bonheur, il existe déjà un code pénal qui a toute une palanquée de capacités répressives, hein, pour mauvais traitements animaux, etc. Donc le fait de mettre le mot animal ne changeait pas le quotidien de tous les gens utilisateurs, entre guillemets, de l'animal. Eh bien, il y a eu un rejet très très clair de la FNSEA. J'ai rencontré son président, j'en ai parlé à l'ancien président, le Guyot également, le Métayer donc. Et ils ont refusé, tout simplement parce que ils considéraient que ça ajoutait une réglementation supplémentaire aux éleveurs. Alors j'ai dit à le métayer, mais attends, c'est ridicule ça, parce que les éleveurs, du reste, quand on regarde les mauvais traitements à animaux, sont vraiment en bas de l'échelle. Ce sont pas des gens, il y a des brebis galeuses comme partout, mais les mauvais traitements, on les trouve dans le trafic de chiens, dans des choses de cette nature. Pas vraiment chez les éleveurs, globalement. Ils sont conformes à la réglementation, on va dire. Alors, je vois pas pourquoi ils rejettent ça, et je disais à le métayer, ça risque au contraire, si ce sont eux qui rejettent cette idée, de leur donner une très mauvaise image. Eh bien, on n'a pas réussi. J'ai appelé Nicolas Hulot, qui est sensible comme moi à ces problèmes. On a été jusqu'à l'Élysée, et pour l'instant, c'est bloqué. Et par Michel Barnier et par le Premier ministre. Alors, si en France, on n'est pas foutu de mettre le mot animal dans le code civil, là, je crois qu'il y a encore vraiment du travail à faire.
Alors, c'est vrai que certains, en ce qui concerne donc les droits de l'animal, disent que ça relève, pour les uns, ça relève de l'indécence, pour d'autres, c'est le mépris qui est porté à l'animal qui est condamnable.
Voilà, oui. Alors, il y a un autre argument, c'est de dire... Alors, quand je dis l'animal dans le code civil, je ne prétends pas pour autant qu'il a des droits. Je dis simplement que le droit de l'homme, notre droit à nous, doit prendre en compte le vivant, le nommer, c'est tout.
Les instincts premiers, les primitifs.
Voilà,
par exemple, est-ce que c'est normal de faire vivre une vache, par exemple, complètement séparée de l'herbe, de la terre, du ciel, de la lumière solaire? Est-ce que c'est humain,
bien sûr.
Est-ce que c'est tolérable? Non.
Alors là, on relève de la condition animale, bien sûr.
On est allé jusqu'à leur donner de la viande. On n'a jamais vu les agriculteurs s'élever, ou la FNCA s'élever contre la nourriture carnée qu'on donnait aux vaches. Dieu sait si ça nous a amené des déboires. En plus...
C'est souvent, du reste, on le voit en termes d'environnement ou de conditions animales, parce qu'il y a des scandales que l'évolution des oui. mentalités se fait. C'est l'Erika et le Prestige avec une goutte de pétrole de trop sur les plages. Et là, on a dit, ah, on peut plus continuer comme ça, alors qu'on nous expliquait précédemment que les réglementations, notamment du transport maritime, étaient trop complexes au regard du nombre de pays intéressés pour qu'on puisse changer une virgule. Oui. Ben là, du coup, en 6 mois, ça a changé. Quand vous parlez de la crise de la vache folle, ou de la grippe aviaire, le H5N1, et ben là, de la même façon, ça nous a amené à revisiter nos élevages, simplement parce qu'on se rendait compte qu'on avait fait des conneries. Et sur le plan de la grippe, ce qu'on appelle la grippe aviaire, moi je suis navré, mais au début on a quand même indiqué que c'était les oiseaux migrateurs, les grands coupables, oui, hein, oui. vous rappelez.
Tout à fait.
La LPO et d'autres ont été les premiers à dire, attendez, c'est peut-être pas si simple. Et on a comparé l'évolution du virus H5N1 dans le temps et dans l'espace, et on a vu que il n'était pas conforme. En clair, la migration des oiseaux ne correspondait pas au déplacement du virus. Et puis bon, l'évidence s'impose, c'est le commerce des poussins qui a conduit à cela. Et ces poussins en question, le plus souvent, eh bien ce sont des exportations d'élevage en batterie que nous dénonçons aujourd'hui dans cette émission avec émotion.
Non, mais avec émotion, monsieur.
Eh bien, on a envoyé ces méthodes d'élevage aux pays dits émergents, en clair les pays pauvres, sans accompagnement ni réglementaire, ni vétérinaire, ni sanitaire suivi. Et par conséquent, ce sont des bouillons de culture surréalistes et ça se retourne contre nous à l'arrivée. Voilà un des exemples.
Choses sont lointaines de nous, plus le poussin, les gens qui élèvent des fois des poules, ils ne savent pas d'où vient le poussin, ils ne savent pas à quel endroit on a pondu l'œuf fécond, ils ne savent rien de tout ça. Ils achètent les poussins, et bon, tout est serrillé et très loin des gens. Et c'est vrai que quand on a des labels quelconques dont il faut se méfier comme la peste, ces labels, on n'a pas confiance en eux parce qu'on ne sait pas quel est l'écran. Moi, quand je pense que quand même les charcutiers de la Cône, ils ont charcuté du cochon qui venait en carcasse des pays de l'Est ou de la Hollande.
Vous savez que la majorité, ça ne leur fera pas plaisir, mais la majorité du cochon corse vient quand même du Danemark.
Mais le jambon de Bayonne, moi je connais des gens dans l'Aveyron qui font du jambon de Bayonne. Ils font du jambon de Bayonne. Alors c'est une sorte de cahier des charges. Alors on croit vous avoir tout dit avec des mots qui masquent le réel. Le cahier des charges, tout ce qui est la réglementation.
Denis, pour être pratique, je vous propose un petit exercice extrêmement simple. C'est les œufs. On mange tous des œufs, la plupart d'entre nous.
Et vous avez une étrange ligne de chiffres qui est suivie de
voilà.
lettres. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et c'est le premier chiffre, cher Alain, qui est tout à fait éclairant.
Voilà, le zéro. Alors vous avez FR, c'est la France. Bon, oui. Et vous regardez sur chaque œuf que vous avez chez vous. Vous avez FR 0, FR 1 ou FR 2 ou FR 3.
Alors, si c'est pas France 3, hein,
oui, non, d'accord. Je fais pas de pub.
Moi, je comprends bien. Mais il y en a plus. Il y en a voir.
Donc, le 0, ça correspond très clairement à l'agriculture biologique. C'est hautement recommandable. Le 1, c'est élevage en plein air.
Oui.
Il est en tout cas, limité, mais en plein air. Le 2, c'est élevage au sol, mais dans des bâtiments. Et le 3, j'invite à le condamner systématiquement, c'est l'élevage en batterie. Alors moi, j'ai vu dans l'île de Ré, du reste, une brave dame qui avait tous ses produits, ses légumes et tout, puis un panier en osier avec de la paille et puis des petits œufs. On avait vraiment l'impression qu'elle les avait ramassés le matin. Je regarde les œufs, c'était du 3, c'est-à-dire élevage en batterie.
C'est classique, on le sait, sur les marchés, même les marchés de pays, on sait qu'il y a une tricherie. Ouais. On le comprend.
Du zéro au deux.
Des gens qui ont tout compris au marketing de l'époque.
Moi, je n'ai pas à m'impréoccuper, Dieu merci, j'ai de vrais œufs, de vrais poulets.
Alors, une fois de plus, il y a aussi, parce qu'inévitablement, on va avoir une rafale de mails, etc. Bon, il y a quand même des éleveurs aussi qui bossent en mettant, c'est plus cher, d'accord, mais en mettant leurs bêtes aussi en plein air. Donc ça existe aussi. Votre bouquin, c'est justement l'inverse. C'est pour ça qu'on en parle. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous faire un petit tour sur la banquise. Il y en a encore un petit peu de banquise. Et donc Alain, dans son ouvrage Chalbet, aussi parle très bien des phoques. Tenez, on va écouter Beau Dommage.
Amis des embouteillages et des pots d'échappement, du béton sauveur de l'homme, des décisions à court terme. Et si vous vous dites après moi le déluge et la pollution, surtout n'écoutez pas CO2 mon amour, ne vous faites pas de mal.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Crémoué,
sacré Momo. Quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show.
Amis des animaux, amis du gavage, amis des hangars concentrationnaires, bah évidemment vous êtes un petit peu servis aujourd'hui. On le rappelle, il ne s'agit pas de faire du procès de gens qui sont très souvent endettés, qui ont des problèmes de fin de mois en permanence et qui sont surtout bien pressurés par l'industrie agroalimentaire. Est-ce que c'est quand même ça aussi qui est derrière, Marie Rouanet?
Ah, complètement. C'est l'éleveur qui est le moins payé alors que c'est lui qui produit le produit. Ça, c'est totalement anormal.
On le voit dans le port, d'ailleurs, enfin partout.
On le voit partout.
Oui. On le voit chez les braconniers, même. Vous savez, quand on voit les éléphants qui sont passés de 2,5 millions au siècle dernier à aujourd'hui quelques 500 000, moi, j'ai rencontré les poachers, les braconniers sur le terrain, sont des lampistes, des pauvres gens. Et du reste, souvent, quand on peut leur donner un tout petit peu plus, ils deviennent anti-poachers, c'est-à-dire ils rentrent dans la garderie, les gardes des parcs nationaux. Mm-hmm. Ils sont tout à fait remarquables parce qu'ils ont une bonne expérience de terrain. Et on voit que l'argent se fait ailleurs, bien évidemment.
Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour maintenant dans les Pyrénées, qui est un superbe massif. Ah oui, ça vous allez voir. Pas très loin de chez vous, parce que vous êtes de l'Aveyron.
Oui,
hein, vous êtes dans l'Aveyron.
Non, le massif central, mais enfin, les Pyrénées, il y a tout Toulouse. Bah oui, Toulouse regarde vers les Pyrénées.
On est à 200-250 km de chez vous, Marie Rouanet, et je vais vous emmener donc sur ce fameux boulevard des Ours.
Ah, non à l'ours, fin sur la route. Eh bien, tout de suite, ça vous met dans l'ambiance. Santiago Medieta, bonjour à vous.
Bonjour, Denis.
Alors, nous sommes chez vous dans ces Pyrénées qui sont superbes. On va dire qu'on est dans le Luchonnais. Et l'Espagne est juste derrière.
Oui, on est vraiment au pied de la crête frontière, à l'Hospice de France, qui est un ancien relais où venaient les pyrénéistes au XIXe siècle, ouais, et les curistes, et qui est un site en voie de réhabilitation.
Et on est sur le boulevard des Ours, c'est-à-dire que c'est pas forcément là qu'ils ont élu totalement domicile, en tout cas ils passent régulièrement.
Oui, ils sont de passage, effectivement, entre l'Ariège, la partie la plus sauvage de la Haute-Garonne et puis les Hautes-Pyrénées. C'est un lieu de passage.
Et alors, lieu de passage aussi pour, on va dire autrefois, les pèlerins, les commerçants, on continuait, on traversait la montagne là.
Oui, les contrebandiers, les chasseurs, les militaires, les colporteurs, tout le monde passait ici, puisqu'il y a un col à 2400 mètres d'altitude qui permet de passer en Espagne, en Aragon.
Alors on va doucement, on est dans le département de la Haute-Garonne, vous l'avez compris, l'Espagne est à deux traces d'ours juste derrière, on est au-dessus de l'Hospice de France, donc pas loin de Luchon. Vous avez des petits points parce que nous étions évidemment en été, si vous avez des petits points dans la montagne, c'était les Isards, ça pouvait être alors le Gypaète barbu aussi, ah ouais, aussi excellent, excellent planeur. Et donc il y a un siècle, il y avait à peu près 200 ours dans les Pyrénées, 1954 il y en avait 70. En 2006, une vingtaine. 2010, lors du prochain plan de restauration. Bah, évidemment, point d'interrogation. L'homme qui nous sert de guide, c'est Santiago Mendieta, qui est à la fois journaliste, écrivain, naturaliste, botaniste, qui connaît bien cet animal, qui a écrit vraiment de différents ouvrages formidables sur les Pyrénées. Il a dirigé Pyrénées, l'aventure botanique, par exemple. C'est un fou de l'Aragon, donc Pyrénées aragonaises aussi. Et donc, avec lui, on va partir d'abord à la découverte de cet animal avant le débat passionnel. Alors on est en train d'emprunter un chemin d'ours parce que là il est un peu à découvert. Lui ce qu'il aime bien c'est quand même laisser quoi ? C'est les hêtraies sapinières, c'est
le... Voilà, la hêtraie sapinière sur ce versant, c'est vraiment les lieux qu'il affectionne. Ici on est plutôt sur un sentier un peu plus grand public qui monte vers le port de Venasque, ouais, qui permet de communiquer avec l'Aragon à 2444 mètres et qui communique avec donc le pays voisin.
Il y a des indices qui sont très intéressants. Parce que, bon, on ne verra pas l'ours, hein. Vous n'êtes pas non plus l'homme qui a vu l'ours. Mais en revanche, les indices, là, on en a un, c'est un poil qui est resté là, accroché sur un barbelé.
Oui, donc là, ça montre effectivement le passage d'un animal. Alors peut-être cet indice très fin, oui, a-t-il plusieurs semaines ou peut-être même est-il passé cette nuit en catimini. En tout cas, on ne voit pas de traces.
Santiago, on va dire, je suis un ours. J'occupe mes journées comment, en ce moment ?
Alors, si c'est le jour, en général, je me tiens un peu quoi dans ma hêtraie sapinière. Et puis, si on est en période de rut, puisque c'est l'été, ben, je cherche des femelles, ah bah, ou une femelle, oui, pour m'accoupler. En sachant qu'effectivement, l'accouplement donc estival et la fécondation, elle est bloquée pendant quelques semaines, jusqu'à la... On va dire ce que la femelle aille dans sa tanière.
Ah d'accord, c'est-à-dire que ça ne se met pas en route tout de suite.
Enfin, non, c'est ce qu'on appelle une fécondation différée, c'est propre, oui, aux ours. Je crois que la gestation est environ 6 à 8 semaines, oui, c'est assez court. L'ourson qui naît est vraiment tout petit, il doit peser 150 ou 200 grammes. Mm-hmm. Et donc en fait, la naissance a lieu en janvier, oui, dans la tanière. Et donc en fait, la femelle a cette possibilité de différer donc la fécondation et la naissance, ça fait la formation du fœtus. La nuit, je suis très actif, je franchis des cols, je traverse des vallées.
Et je peux franchir des cols assez haut, hein, 2000, 2004.
Oui, je suis un athlète assez complet, voilà. Hein, je pourrais peut-être même m'inscrire aux Jeux Olympiques.
Bien sûr.
C'est plutôt coureur de demi-fond, hein. Donc c'est vraiment un athlète et il est capable, oui, de passer des cols à 2005. Mais c'est essentiellement un animal forestier,
oui,
c'est quand même pas un animal de montagne. Vous ne verrez pas un ours sur des glaciers.
Non, c'est-à-dire, en fait, autrefois, il était dans les plaines aussi, cet ours-là. Et donc, il est monté parce que urbanisation, parce que chassé.
Bien sûr, et puis le recul de la forêt.
Oui.
Tout ça est lié à la déforestation. Donc, effectivement, il a trouvé refuge ici, en montagne. L'ours, ce qui sous-tend son activité, son comportement, ses déplacements, c'est en fait la nourriture. Donc, ouais, c'est une recherche effrénée de nourriture en permanence.
Je suis donc à la lisière de cette hêtraie sapinière. Qu'est-ce que je vais trouver donc ?
Donc on va peut-être chercher peut-être des fruits, oui, surtout bon, en fin d'été. Ça peut être des faines également à l'automne. Mais là, en cet été, mais finalement, il y a des insectes. On va essayer de se nourrir de fourmis, oui, et puis également de l'alimentation carnée, bien que l'ours soit herbivore à 80% ou omnivore à 80%. Oui. On ne peut pas classer l'ours dans les carnivores, même s'il a une alimentation carnée, qui lui sert surtout à grossir l'automne pour justement passer l'hiver dans sa tanière.
J'aime bien le miel. C'est évidemment, de temps en temps, quand je vois une ruche ou quelques-unes, je ne peux pas m'empêcher de donner trois claques pour essayer de manger des abeilles et du miel.
C'est sûr que dans ces cas-là, je ne suis pas copain avec l'apiculteur, mais c'est vrai, ça arrive qu'effectivement, qu'il y ait des dégâts sur les ruches, parce que l'ours, ce n'est pas une légende. Les enfants le savent bien. L'ours adore le miel et dans ces cas-là, il ne prend pas des pincettes. Il y va franco et il casse tout.
Ah, là, on a un petit vent. Alors, ça se trouve, peut-être que notre ours est en train de nous a repéré. Alors, il n'a pas une très bonne vue. Hein. Moi, j'ai pas une bonne vue. Il me faut plutôt des lunettes. Mais l'odorat marche bien.
J'ai un odorat tout à fait remarquable, tout à fait adapté. Et je pense qu'il nous a repéré, qu'il a détalé depuis longtemps.
Bon, on lui fait peur, vous croyez? Quoi, il fait quoi? 250 kilos, 300 kilos?
Pour les plus gros, oui. Piros, qui est un mâle slovène, enfin issu de Slovénie. Aujourd'hui, il est pyrénéen, on peut dire qu'il est pyrénéen. Qui se balade sur le versant sud, entre les vallées du Louron, Ristaïn. Il fait 250 kilos. C'est une belle bête, oui. Et c'est un mâle jeune.
Allez-y.
Allez, je stoppe.
Enjambé, hop. Floc, c'est bon. On vient de traverser un torrent de montagne, hein, évidemment.
Le ruisseau du Pesson.
J'ai quand même besoin d'un grand territoire et aussi de silence. C'est ça, moi, qui me plaît en tant que course. Hein.
Oui, j'ai besoin de zones tampons, de grandes forêts, de hêtraies sapinières. J'ai besoin également de pelouses. J'ai besoin d'espace, de tranquillité.
Mais si je bouge, c'est parce que je vais chercher un autre territoire ou parce que celui où je suis ne me suffit pas, parce que je suis embêté
Au sein des ours, c'est comme un clan. Hein. Vous savez, il y a souvent des mâles dominants qui chassent les jeunes mâles. Les jeunes mâles, en fait, c'est un peu comme chez les loups également. Ils ont besoin de voir du pays, on va dire. Et donc, il s'agit pour eux de prendre l'air, on va dire, si on peut dire.
Oui, non, mais c'est pas le phénomène Tanguy, quoi. Il faut partir à un moment.
Non, voilà, chez les ours, effectivement, Tanguy, ça n'existe pas. Et en général, c'est souvent des mâles qui étaient très jeunes qui souvent supplantent les aînés. Ouais. Bon, c'est ce qui s'est passé avec un ours qui était né dans les Pyrénées, mais qui est de maman slovène, qui s'est installé en Vallée d'Aspe et qui a chassé le fameux papillon.
Là, on va traverser une tourbière.
On y va. On traverse une tourbière et un torrent.
On va se poser. Bon, attendez, une belle pierre qu'on nous a installée là. Pour tirer le repas du sac, c'est quand même pas mal. Voilà.
Allez, il fait faim un petit peu.
Ah, il fait faim, oui. Hop.
Dans notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger, mangeait tous les moutons.
Il y a évidemment les prélèvements quand même de brebis et d'ovins, ce qui pose des problèmes, d'où effectivement les pro-ours, les anti-ours, etc. On va juste rappeler un chiffre. Les prélèvements, c'est à peu près, on va dire, 300 bêtes dans les Pyrénées, c'est ce que j'ai vu comme statistique, à l'année où on est sûr que c'est une attaque d'ours. Les bergers perdent entre 15 000 et 20 000 bêtes, tous les ans. Donc c'est juste pour ramener un peu la proportion. Quoi.
Bon, les crispations ont été très fortes. Je pense aussi que c'était culturel. On avait perdu l'habitude d'avoir des ours sur le territoire. Donc on ne garde pas les troupeaux.
Le dernier ours, on va dire, c'est quoi? Les années 60 à peu près, 1960, 50.
En Béarn, il y a toujours des ours de souche pyrénéenne, oui. En dépit de la mort de Canel. Il y a toujours quelques ours typiquement pyrénéens, mais qui se meurent. Donc effectivement, le fait de réintroduire des individus issus de Slovénie, des individus dynamiques, dont certains qui ont été capturés, certaines femelles étaient déjà enceintes, portaient avec elles déjà des embryons.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a combien? On a entre 15 et 20 bêtes, on dit, dans le massif.
Oui, voilà, globalement.
Ceux qui soyons très francs n'est pas forcément viable pour une espèce.
Actuellement, non, mais c'est quand même une population qui est très dynamique, qui se reproduit assez bien, qui a trouvé ses marques dans le massif pyrénéen. Donc ce qui veut dire que le milieu est bon pour accueillir... l'ours, c'est un peu comme le grand tétras, hein, c'est des bio-indicateurs, au sens où la qualité du milieu est liée. Alors effectivement, il y a des endroits dégradés, mais globalement, l'ours est beaucoup plus adaptable qu'on ne le croit.
Petite balade pyrénéenne, donc à l'époque où il faisait chaud, souvenez-vous, si, il y a à peine 6 mois. Mais oui, on était en chemisette, c'était formidable. Donc avec Santiago Mendieta, qui a écrit d'ailleurs aussi, enfin il écrit beaucoup de choses cet homme-là, il écrit un bouquin, alors que c'est pas sur les ours, mais qui s'appelle L'or de Canfranc, aux éditions Privas, je vous le recommande. Si vous connaissez cette gare complètement surréaliste au sommet du Somport, donc de Canfranc, ça se passe là. Donc L'or de Canfranc aux éditions Privas, avec la très belle plume de Santiago, et aussi tout ce qu'il écrit sur la nature. Alors,
peut-être quelques mots, évidemment, parce qu'on sait que le débat est toujours passionnel. On a très souvent réduit Alain Bougrain-Dubourg, donc cette affaire d'ours, au conflit opposant les montagnards aux citadins. Et évidemment que c'est pas aussi simple que ça, fort heureusement.
C'est même pas ça du tout. Je crois qu'il faut le dire. Moi, j'ai été souvent sur place et je constate qu'il y a une majorité de Pyrénéens qui sont favorables à l'ours. Faut
70,
le dire.
77%.
Voilà. Il y a des élus de gauche comme de droite qui veulent l'ours, véritable tour Eiffel des Pyrénées. Alors vous avez une poignée de poujadistes, hein, on va dire, qui sur le thème de l'ours vont faire leur chou gras, et c'est tout à fait regrettable. Alors la deuxième réflexion qui me vient à l'esprit, il faudra quand même que le gouvernement se prononce. Hein, est-ce qu'on veut ou non préserver cette espèce emblématique ? Ça signifie, si on veut la préserver, qu'il faudra enrichir les populations actuelles. Je sais que c'est un choix politique difficile, parce qu'il y a des oppositions très violentes localement, mais il faudra choisir. Hein. Et puis enfin, le dernier point, et c'est dit dans ce reportage bien sympa, on a envie d'être là-bas dans les Pyrénées plutôt que dans votre studio pour être froid, c'est l'espèce parapluie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on protège une espèce dite emblématique, il y a tout le cortège du vivant qui va en bénéficier. C'est donc pas seulement l'ours qu'on protège, c'est aussi la montagne, c'est aussi une multitude d'espèces plus modestes, mais tout aussi indispensables.
Et puis, dans votre ouvrage aussi, Alain, vous parlez des mots, je pense, parce que l'on parle de réintroduction, c'est devenu renforcement de population. On ne tue plus dans les campagnes, on prélève.
Oui, on prélève, on régule.
On prélève. On ne flingue plus les nuisibles, on gère les espèces. Et on régule le gibier. Enfin,
le poids des mots est très important.
C'est comme l'euthanasie, quand on peut parler de la mort. Oui. Alors qu'euthanasie, ça signifie mort douce.
Oui,
et souvent, la mort n'est pas douce pour les bêtes comestibles. Oui.
Alors dans nos sociétés, en fait, qui justifient absolument tout au nom de l'économie, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, individuellement? Parce que en même temps, on n'a pas envie de voir ça. Vous le dites d'ailleurs très très bien aussi dans votre ouvrage, Marie, on est tous un peu pareil, quoi. Alors on se fait avoir par des publicités, et là on tombe alors sur des gens qui vont vous vendre les bons œufs de nos villages, nom de Dieu, les matines, les œufs de ferme, tout ça, c'est bon. Donc ça on en a la longueur de colonne, et c'est l'opposé, enfin, ce que l'on bouffe est très souvent à l'opposé de ça.
Ben c'est le masque. Le masque, c'est la publicité. Le masque, c'est les couleurs. Le masque, c'est les images. Et je pense que les gens, dans leur grande majorité, sont sensibles aux images et n'ont pas envie de se poser un problème aussi important, parce qu'il est pluricotidien, de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. C'est vrai qu'ils en ont d'autres. Mais quand même, manger, on n'introduit pas n'importe quoi dans son corps. Je pense que c'est quand même un enjeu important. Et ce qu'on peut faire, moi je le dis, ayez l'œil d'abord quand vous faites vos courses. Regardez d'où ça vient, éliminez un certain nombre de choses, regardez vos étiquettes, ne tolérez pas qu'il y ait des conservateurs quand il n'y en a pas besoin, par exemple sur de la chair à saucisse, ou de la saucisse sèche. Incroyable le nombre de composants qu'on peut trouver dans de la saucisse sèche ou du saucisson, qui a priori n'en a pas besoin. Donc, les provenances. Et moi je dis aussi, et surtout, ne pas gaspiller. Je crois qu'au niveau de la nourriture, si on acceptait de payer un peu plus cher et de ne jamais gaspiller de nourriture, l'humanité se porterait beaucoup mieux. Et je crois qu'il en est de même dans... Bon, moi je suis sur le domestique, vous êtes sur le sauvage, mais c'est vrai qu'il y a un équilibre de la nature. Moi j'ai appris avec joie que les genettes étaient revenues chez nous, là-bas, dans les bois de châtaigniers, dans les châtaigneraies et les chênaies. Par contre, nous, les faisans ne se reproduisent pas chez nous. Alors on nous pose les faisans 3 jours avant d'élevage, parce que les espèces sauvages,
ça, tous les autres
aux élevages.
Vous avez un très joli couplet l'un et l'autre, effectivement, sur ce thème-là, où ces pauvres bestioles découvrent la nature en fait 3-4 jours avant.
Ouais. On peut dire que la martre et la belette sont sorties des espèces nuisibles cette semaine, avant-hier.
Il faudra bien
et donc,
il
paraît
aussi
que la fouine est folle de rage.
Oui,
elle n'est pas contente. Elle aurait pu faire partie du lot.
Parce qu'on avait la trilogie, là.
Voilà.
Il faut bien en sortir le renard. Moi, je les vois, j'ai pitié d'eux, le pauvre renard. Il flanquait dans les... De temps en temps, il s'en sauve un.
Bien sûr.
Bon.
Alors, au propos, Denis, vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, il y a le pouvoir d'achat, etc. Je trouve très intéressant de voir qu'en mangeant mieux, on peut peut-être aussi économiser, hein, c'est pas inutile, parce qu'on voit bien que dans les difficultés que nous connaissons. Mais, par ailleurs, les concitoyens que nous sommes ont aujourd'hui un véritable pouvoir à l'égard des multinationales. Je vais vous donner un exemple, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais je le fais quand même, c'est McDo. McDo qui n'a pas la meilleure image à travers la mondialisation, la malbouffe et tout le reste. Bon, j'en parlais avec... qui a des zingués près de chez vous, madame...
José Beauvais.
Bon, et voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont... Je leur disais, écoutez, faites une chose, modifiez l'origine de vos œufs. Ce sont des millions d'œufs chaque année consommés dans les restaurants en question. Eh bien, ils ont fait ce choix. Tout récemment, il y a près de 80% des œufs qui sont issus d'élevage en extérieur. C'est une économie colossal que ce groupe. À partir du moment où ils font des propositions aux éleveurs d'avoir donc des productions qui sont conformes, on va dire, au bien-être animal, eh bien, ça donne à réfléchir à l'ensemble du marché. Et j'ai envie de dire qu'un groupe comme celui-là a peut-être plus de pouvoir qu'un ministre de l'Agriculture.
Alors, Par contre, on va dire à Danone, moi je dis Danone, non. 32 000 vaches, je regrette. Hors sol, bourré de tourteaux et d'ensilage, qui font 500 000 litres de lait par jour. Il y en a un en Amérique, il y en a un en Afrique noire qui sont en train de monter, il y en a un autre qui va se monter en Chine, sans compter une autre firme qui fait un élevage de 36 000 vaches hors sol, en polluant définitivement les nappes de pays qui n'ont pas d'eau. Alors là, par contre, moi, Danone, c'est fini. Là, j'ai mis
alors
un
là,
très
on est vraiment dans
Danone.
La complexité du débat, Denis, oui, parce que par ailleurs, Danone, et vous allez me donner les éléments, je travaille avec eux, tout simplement pour la protection des zones humides et notamment la valorisation des sites Ramsar. Donc c'est vrai que c'est ambigu d'avoir une réalité qui est condamnable comme celle que vous venez d'évoquer et un projet d'avenir qui est enthousiasmant.
Ils s'enorgueillissaient voilà. D'ailleurs de là, de ça, en disant qu'il n'y aurait pas de transport, puisque c'est tout sur place. La vache, le lait, les 500 millions de litres de lait par jour. Ça, je l'ai.
Quel est votre souhait et qu'est-ce que vous sentez dans cette société d'ailleurs complètement dingue dans laquelle nous vivons, que nous avons construit merveilleusement tous ensemble? Mais quand même, bon, là on voit bien qu'on touche un peu aux limites du vivant, on touche aux limites de la planète, et heureusement qu'on s'en rend compte. Vers quoi aller aussi alors Jean-Marie Pelt nous parle très souvent en disant qu'il essaye d'élever l'âme des gens, quoi, et non pas de les rabaisser. Donc il y a ça aussi, il y a un rapport quand même différent au monde qu'il faut sûrement avoir, je sais pas Marie
ou... Alors moi je crois que j'avais beaucoup espoir à la pénurie. Je trouvais que ce n'était pas une mauvaise chose parce qu'elle allait nous rendre peut-être un petit peu sages, hein, un petit peu raisonnables dans l'acquisition des objets. Essayer de, quand même de se défendre contre l'accumulation des biens matériels pour privilégier la qualité, puisque les choses ne sont pas... Il y a des choses qui ne sont pas achetables dans la vie. Il y a le plaisir, il y a l'amour, il y a la qualité de notre rapport aux autres qui n'est pas achetable. Alors ça, c'est ça. Hein. Et je pensais qu'avec la pénurie, dans le fond, en n'allant pas courir le bout du monde, le tourisme, il faudra bien un jour se poser le problème du tourisme qui nous démolit tout. Voilà, je crois que la sagesse, une sagesse de nantis, nous sommes des nantis. Et si nous n'acceptons pas de tailler un peu ce qui ne sera pas terriblement difficile dans notre surplus, eh bien, nous, avec tout le monde, nous démolirons la planète.
Marie Rouanet, Mauvaise nouvelle de la chair aux éditions Albin Michel. Un petit mot de fin aussi, Alain Bougrain-Dubourg.
Oh ben, j'ai l'impression que, qu'on le veuille ou non, le 21e siècle nous condamne à une réflexion sur le thème de l'éthique. Paradoxalement, au moment où on parle de crise économique, mais si précédemment, ça a été le siècle de l'argent, de la production à tout va, notamment au lendemain de la guerre, aujourd'hui, on devra intégrer des valeurs qui semblent un peu dépassées aujourd'hui, mais qui seront concrètes dans le siècle à venir.
C'est un genre moral.
Sale bête, respectons-les, c'est chez Artaud, c'est signé Alain Bougrain-Dubourg. Je vous signale aussi que vous avez, alors c'est pas joyeux, mais c'est le 16 décembre, donc mardi 16 sur France 5 à 20h35, un excellent reportage de Elsa Lepetrec, qui s'appelle Groenland, les pétrodollars de la banquise. Vraiment à ne pas louper.
Merci beaucoup. Merci donc à Loïc Frappsos, à Vincent Godard à la technique aujourd'hui, à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Emmanuel Chupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui a nourri vraiment le site de CO2 Mon Amour. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une ronde des journalistes. Voilà, donc là aussi la parole donc tout à fait libre. Fabienne Chauvière, c'est Les Aventuriers dans quelques instants avec un portrait à ne pas manquer de Guylaine Dehaene qui est pédiatre et chercheuse. Et c'est une femme qui dresse des cartes des cerveaux des nourrissons et des enfants. Donc vraiment, restez à l'écoute de France Inter pour Les Aventuriers de Fabienne. Et je vous retrouve demain avec plaisir dans la tulle du Mont-Petit-Loup à 19h55 après Les Petits Bateaux. Il est 15h.